On va prendre deux questions.
Donc Olivier Bachelard, je suis directeur de la formation de l'école qui forme les dirigeants de caisses de sécurité sociale. Il me semble qu'à travers ce que vous dites tous, on retrouve bien l'implication de la direction, l'expertise transversale, ce qui ressort du cercle des dirigeants. Mais il me semble qu'il y a deux choses qui ont été un tout petit peu passées sous silence. Un, c'est que le cadre juridique a quand même significativement changé avec la directive européenne pour passer d'une réglementation un petit peu contrainte à une obligation de négocier, donc cette importance du dialogue social. Et du coup, dans l'entreprise, j'allais dire, peu importe les outils, que ce soit l'audit social, le diagnostic partagé, il y a des choses, mais comment j'articule les trois niveaux de prévention entre une prévention primaire, prendre en compte dans la politique générale cet aspect-là des choses, effectivement articulé avec une prévention secondaire, et ce n'est pas les mêmes expertises, pour interroger avec un certain niveau de profondeur, avec les cadres dirigeants de proximité, les pratiques RH qui individualisent quand même la relation et cassent un peu le lien social, il faut être clair, interroger le management, échanger sur les pratiques, et puis le niveau tertiaire où là, effectivement, issu du monde militaire, hein, tout ce qui est post-trauma, on s'occupe des gens en souffrance. Mais ce n'est pas la même expertise, et cette articulation est assez difficile à trouver. Et quand on a la volonté, après, effectivement, des outils, il y en a un certain nombre qui existent, et je suis d'accord, évidemment, avec le docteur Salingro, il y en a plein les bibliothèques, des outils pertinents, bien faits, etc. Mais c'est dans cet ensemble de petites choses dont parlait Jean-Luc Verne qu'on va trouver le bon réglage. Et là, à mon avis, il faut de la volonté et de l'art. Une bonne recette de cuisine ou un bon morceau de musique joué par un technicien ou par un virtuose, ça ne va pas donner la même chose. Bon, s'il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas grand-chose non plus, vous me direz. Mais je crois qu'en articulant bien ces niveaux-là, on peut construire et on voit des gens qui construisent des choses pertinentes pour effectivement éviter de retrouver ça dans les comptes de la sécurité sociale, que ce soit en maladie ou ailleurs, quoi. Soyons clairs.
Monsieur. Dominique Vacher, je suis professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers auprès de William Dab. Je voulais juste apporter une précision sur les orientations ministérielles de Valérie Pécresse et à l'époque Xavier Bertrand. Ça concerne bien tous les champs des futurs managers et pas seulement les ingénieurs. Et même ce qu'on peut dire, c'est que la cible vise à en faire quelque chose comme un TOEFL de la santé-sécurité, c'est-à-dire une sorte de minima requis pour pouvoir prétendre être diplômé dans le domaine santé-sécurité au travail. Je voulais rebondir, Monsieur Verne, sur votre conclusion introductive, que j'ai beaucoup aimée et que personnellement je supporte, et qui est grosso modo de dire que les pratiques nécessaires pour être très performant en santé et sécurité au travail dans l'entreprise, bonne nouvelle, servent la performance globale de l'entreprise. Et parmi ces pratiques, il y en a une qui est à ma faveur, parce qu'on parle beaucoup d'organisation et de l'impact de l'organisation sur les hommes, c'est évident. Mais moi, je crois beaucoup aussi à ce que j'appelle personnellement la posture managériale et toutes les pratiques qui sont toutes faites de bon sens et qui, prises indépendamment les unes des autres, sont des lapalissades, mais qui, au demeurant, quand on essaye d'identifier quelles sont les pratiques clés, forment un véritable challenge pour chaque individu pour pouvoir essayer de les développer. Et du coup, ça renvoie, et c'était la question que je voulais vous poser, au choix des hommes, parce que je suis désolé, j'ai fait et je fais toujours par ailleurs des activités dans un grand groupe industriel en France. J'ai fait 25 ans de management sur le terrain un peu partout. Ne s'improvise pas manager qui veut. Je crois que, comme un monsieur parlait juste avant moi d'un virtuose instrument de musique, eh bien, il y a certaines formes de, appelons ça du talent, ou appelez ça comme vous voulez, qui prédispose plutôt les uns plutôt que les autres. Et je crois que quand l'entreprise se trompe dans le choix de son manager, elle fait trois malheureux. Elle fait le manager en question parce qu'il ne va pas arriver à se débrouiller des objectifs qu'on lui donne. Les salariés de l'équipe qui manage parce qu'ils ne vont pas s'y retrouver en termes de pratique précisément et de posture managériale. Et le troisième malheureux, c'est l'entreprise parce que les objectifs ne seront pas atteints. Donc ma question, imaginez-vous dans votre rôle de DRH, si j'ai bien compris, nouvel arrivant à BPCE, challenger votre, c'est très difficile, hein, challenger votre processus de nomination des managers, et si oui, quelles sont les pistes qui vous sont passées déjà par la tête?
D'abord, je vous remercie des mots très gentils que vous avez formulés à mon égard. Et vous avez salué Xavier Bertrand au passage qui, c'est vrai, a reposé en demandant à Légeron et je ne sais plus à qui de faire ce rapport.
Enfin,
voilà. C'est d'un peu avancé en mettant un peu les problèmes sur la table. Alors ça ne les avait pas résolus, mais je crois que ça fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Non, j'ai pas des. Je peux témoigner de ce que j'ai vu en 40 ans de carrière, dans la pharmacie, dans le pétrole, dans la chimie, dans l'automobile et maintenant dans la banque. Les gens qui réussissent, certes les plus brillants à avoir des compétences, il y en a sur le marché. Mais ceux qui réussissent, c'est les gens qui ont des qualités de cœur et de courage, vous voyez, pour ne pas dire autre chose. Voilà. C'est-à-dire avoir le courage de dire des choses, avoir le courage de réagir à ses directions, avoir le courage de réagir à l'environnement, et puis aussi d'avoir des qualités de cœur. C'est pas laisser tomber les collaborateurs, pas laisser tomber les collègues, savoir les engueuler quand il faut, mais aussi savoir leur tasse dans la main. Alors, les managers qui ont réussi, les plus grands, que j'ai pu voir, que j'ai eu comme un patron, c'est ceux qui avaient ça. Alors, le reste, après, bon, qui sache gérer, mais tout le monde sait gérer maintenant. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bilan compte d'exploitation, vous comprenez ? Donc, c'est pas là où se fait la différence. La différence, elle se fonde sur ses qualités humaines. Alors, voilà, c'est ce que je crois et c'est ce que j'ai vu en 40 ans. Et c'est un peu le message. Or, certes, c'est pas vendable, ce que je dis. Hein, mais c'est pragmatique, quoi, parce que c'est un peu ça que j'ai vu. Et les grands patrons que j'ai vus émerger, c'est cela, quoi. Ceux qui avaient ces qualités, c'est ça que d'autres appellent le leadership, en fait, etc. Moi, je le dis à la française, tout simplement. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire.
Madame.
J'ai pas de questions. J'ai été simplement des réflexions. Je vais dire aussi des choses très agréables à Monsieur Vergne, parce que je trouve ce qu'il a dit me convient parfaitement. Je suis Dominique Delègue, donc je suis médecin en santé au travail et j'assure la coordination de la santé pour le groupe ArcelorMittal. J'y travaille depuis plus de 30 ans et j'ai accompagné tous les soubresauts, toutes les restructurations, toutes les modifications d'organisation qu'on a vues dans la sidérurgie. Et je vous promets que ce n'est pas mince. Et mon rôle, je crois, ça a été au maximum en tant que médecin d'accompagner l'entreprise et les salariés avec beaucoup de modestie, mais dans tous ces changements. C'est vrai qu'on voit quand même que les choses se bousculent actuellement peut-être encore plus que ce n'a été, que l'entreprise change, que le monde financier est là, qu'il faut des profits, il faut des clients satisfaits, il faut du temps, du délai, il faut que cette pression du temps est énorme. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de salariés, effectivement, qui ont du mal à suivre, parce que ça impacte aussi, je crois que dans toutes ces questions, c'est compliqué, parce qu'il y a la rencontre entre le monde collectif, d'un côté, avec l'entreprise qui a sa finalité, ses objectifs, donc quelque chose de structuré, a priori, et puis l'individu qui a son vécu, sa vie, son historique, et les deux, des fois, ne vont pas ensemble. Il y a une confrontation entre ce que les gens ont vécu antérieurement et ce que leur demande de nouveau l'entreprise ou des restructurations, etc. Donc, le sujet est complexe. Je crois qu'il faut effectivement avancer avec beaucoup de modestie, mais je crois, comme vous avez dit, Monsieur Vergne, qu'il faut être dans l'action. Parce que le pire, ça serait d'attendre que les trains passent et qu'on reste sur le quai de gare. Donc je crois qu'il faut avancer, même si c'est maladroit des fois. Je crois qu'il n'y a pas non plus de plan complètement ficelé, parce que je crois que c'est à l'entreprise, en fonction de son histoire, en fonction de son vécu, de trouver son chemin. Et c'est aussi avec un travail de tout le monde, de chacun, de tous les acteurs de l'entreprise, pour aller de l'avant. Je crois aussi quand même à l'implication des directions. Si la direction ne montre pas le chemin, je crois qu'on n'avance pas. En tout cas, moi, je suis optimiste parce que je pense qu'on a peut-être touché le fond avec ces problèmes de risques psychosociaux et qu'à partir de là, on va construire des choses positives. J'en suis à peu près sûre parce qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut que dans les restructurations, tout ce qui se passe actuellement, on mesure un peu mieux l'impact sur l'homme et qu'on travaille tous à ça. Voilà.
Je suis Philippe Ginoux et je travaille dans un service interprofessionnel de santé au travail. Et un service relativement important. Et si vous voulez, aujourd'hui, la santé au travail évolue. Quand on regarde le thème de ce soir, réinventer la santé au travail, je crois beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de prévention de la désinsertion professionnelle, de maintien dans l'emploi. Sachez que l'on a des contractualisations soit avec des entreprises, soit avec les CRAM, pour justement trouver des améliorations des conditions de travail des salariés. Et ça, je crois que c'est un point important et c'est ce qui fera la modernité de la santé au travail.
Les orateurs vont avoir à conclure, mais avant ça, j'aimerais bien leur proposer une réflexion. J'aime bien opposer le paradis de la pénurie à l'enfer de l'abondance pour les entreprises.
Alors, M. Salingros a commencé après-guerre, c'était la pénurie. On manquait de tout. Et le problème des entreprises, c'était d'arriver à produire. De toute façon, tout ce qu'on produisait a été vendu. Les clients attendaient un temps incroyable pour avoir leur voiture et tous leurs besoins de nécessité. Et les enjeux des entreprises, c'était s'organiser pour produire plus, pour faire plus. Et finalement, les systèmes étaient plutôt hiérarchiques. Les chefs étaient des gens qui avançaient sabre au clair, qui avaient une capacité de mêler les troupes. Et finalement, il y avait des problèmes, mais des problèmes qui étaient pris en charge par les institutions de gestion de la sécurité de l'époque. Mais finalement, au total, ça apparaît aujourd'hui beaucoup plus facile à vivre que l'enfer de l'abondance. Nous sommes depuis un certain temps dans une époque d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de produits fabriqués par les entreprises, il y a beaucoup trop de personnes, c'est le chômage, il y a beaucoup de concurrents, il faut sans arrêt innover, sans arrêt bouger, les marchés sont mobiles. Les entreprises ne peuvent y arriver que si elles innovent très vite. Donc on met en place des structures projets, des échéances. On parle de pilotage par le stress, etc. Donc on est dans un univers où tout bouge tout le temps, tout est toujours incertain. Et les entreprises ne sont pas tellement bien armées pour offrir des certitudes au personnel, puisqu'elles-mêmes elles sont dans l'incertitude de leur situation et même de leur avenir. Et je me demande si, en fait, au fond, on n'a pas gardé un peu des mentalités et surtout des institutions de gestion de la santé au travail issues de la période du paradis, alors qu'on est dans un enfer où peut-être il faudrait adapter et nos modes de pensée et nos systèmes de gestion de sécurité et de santé au travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette opposition entre un monde beaucoup plus difficile à vivre aujourd'hui parce que tout bouge tout le temps et tout est toujours incertain.
En conclusion, moi, je vais faire court, hein. Je vais vous dire deux choses que j'ai déjà dit. En parler, c'est un progrès, mais agir, réaliser, ça doit être notre finalité.
Moi, je reviendrai à une question qui était, est-ce qu'on est en retard ? Je ne vais pas prendre le problème de cette façon-là. Je dis, est-ce que la dérivée est bonne ? C'est ça qui est important, parce que bon, on est dans une situation qui est ce qu'elle est. Il n'y a pas de doute qu'il faut beaucoup aller regarder quand même aussi à l'extérieur. En particulier, j'avais cité le Canada, j'ai dit que j'y reviendrai. Le Canada est exemplaire, me semble-t-il, par la décrispation qui existe sur ces problèmes-là. Décrispation, ben je crois qu'on peut progresser en se décrispant, et je pense que les échanges y conduisent, et que la clé, finalement, du progrès va être que l'on conçoive tous le travail comme un temps favorable pour la santé. Alors, il y a une partie de la logomachie qui est d'opposer travail et santé. Mais au lieu de les opposer, il faut les rendre coopératifs. Le travail, c'est un temps favorable pour la santé. Et à partir du moment où on a exprimé les choses de cette façon-là, on doit tous trouver des occasions de le rendre encore plus favorable. Il faut une dérivée favorable. On doit le faire sur ce qui est prescrit, mais on peut aussi le faire dans un domaine du non-prescrit où il y a des tas de choses possibles. Il faut de la diversité parce que les entreprises, les métiers, les personnes ne sont pas les mêmes, mais il faut qu'il y ait du progrès, bien sûr, par le respect du prescrit, et par des avancées sur le non-prescrit. En considérant le travail comme une occasion favorable, eh bien je pense que nous progressons.
En guise de conclusion, en deux mots, sujet du travail, qui est un peu comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses, je dirais que ce qui m'étonne, moi, ce qui me sidère, et je parle à des gens qui sont en situation, c'est avec un petit peu d'expérience pour les avoir vus travailler, c'est les astuces et la technicité et l'intelligence que mettent les entreprises pour avoir une part de marché, un quart de point de ceci, de cela, un petit avantage concurrentiel de rien du tout, mais gagner et être meilleur. Mais quand je vois les gaps énormes, l'intérêt économique énorme qu'ils pourraient avoir à côté de ça, par une meilleure gestion, je me dis c'est dommage qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et le problème qu'on a, c'est d'avoir des indicateurs pour leur faire comprendre. Et c'est aussi pour ça qu'on milite pour que le stress soit reconnu comme maladie professionnelle, non pas pour le plaisir de faire du papier, mais comme l'a démontré Casamian pour la silicose, la prévention de la silicose est devenue rentable que du jour où elle a été reconnue comme maladie professionnelle. C'est une loi économique. Donc pour rentrer dans le jeu économique de l'entreprise, qui est une formidable machine économique, il faut parler économique. Le reste, c'est pour les gazettes et la main sur le cœur. Et pour parler économique, eh bien, il faut que ça rentre dans le jeu économique. Et la seule façon d'y rentrer, c'est la maladie professionnelle. Un autre aspect qui concourt à la même démarche, c'est que l'intuition, l'impression que ce qui va différencier les entreprises et qui fait que certaines vont gagner et d'autres vont perdre, ça n'est pas leur position géographique, de moins en moins, ça n'est pas leur compétence fonctionnelle ou leur proximité des sources de matériaux, c'est la qualité de leur management. Et si elles veulent que les jeunes cadres, parce qu'ils vont être moins nombreux que les années précédentes, soient attirés, il faut qu'elles soient un peu plus sexy, c'est-à-dire qu'elles aient un management qui les attire. Et il n'y a pas 36 façons d'attirer au niveau managérial. Donc je pense que les entreprises ont tout intérêt à regarder la chose de façon pragmatique.
Vous l'avez entendu, il est important pour les entreprises et les organisations de garder le sens du collectif et d'entretenir des moments de convivialité. C'est pour ça qu'on vous invite à un buffet maintenant.
Merci.
Bravo, président.